La bibliothèque
heureux qui Comulis a fait un long voyage. Si pour le Merlan, c'est 2 ans et demi de vagabondage qui s'achève avec la fin des travaux de rénovation du théâtre n'ont pas été une odyssée, ils ont cependant permis à cette scène nationale de développer nombre de programmations originales. Parti par un froid glacial des goudes en 2005, ce vagabondage a instauré un rapport renouvelé, souvent non conventionnel, à la ville, au territoire et au public. Il s'achève enfin et en fanfare avec une série de spectacles et d'événements initiés par Numéro 10, un spectacle proposé très récemment, le 17 novembre, par Massimo Furlan au Stade Vélodrome. Aujourd'hui, le théâtre du Merlan, où nous enregistrons ce plateau, est complètement refait, revu et corrigé, et nous invite à l'habiter. Nous verrons dans un instant ce qu'habiter le Merlan signifie pour l'équipe qui anime ce lieu. Autour de cette table, pour en parler, Nathalie Marteau, directrice, Anaïs Leménian, chargée des relations avec les publics, et puis des artistes qui ont traversé ce vagabondage et qui poursuivent cette collaboration dans la programmation de cette nouvelle saison, la compagnie La Mère Boitel, qui est représentée par Camille Boitel, et la compagnie Ungel avec Nicolas Galeazzi. Bonjour à tous.
Voilà, on attaque la descente. Attention, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord, hein. Ceux qui sont capables de se boucher le nez, se bouchent le nez, passent devant.
Revenons un peu sur les débuts de cette aventure avec Nathalie Marteau. Nathalie, lorsque tu as pris la direction du Merlan, tu avais, je crois, posé comme condition que le lieu soit complètement réaménagé, d'où ces 2 ans et quelques de travaux. Sans doute en avait-il besoin, ce théâtre. Comment décrirais-tu le Merlan quand tu es arrivé à sa direction ?
C'est difficile de le décrire. Je peux parler de un peu mon ressenti, mais surtout ce qui était une évidence pour tout le monde. Ce bâtiment est complexe, il est situé dans un centre urbain, en dessous carrefour. Il est au carrefour lui-même de différentes entités, puisqu'il y a aussi la bibliothèque, la PMI. Et surtout, il avait besoin à la fois d'être rénové sur le plan de sa mise aux normes et de la sécurité. Aussi sur le plan du confort, et il y avait en l'occurrence à l'époque à améliorer le confort du public, donc dans son accueil, donc en l'occurrence le hall d'accueil, et dans son confort d'assises, j'ai envie de dire dans la salle, et puis aussi d'améliorer le confort d'accueil des artistes. Donc en effet, ça concerne la partie du plateau, des loges et de tout ce qui est annexe à la dimension scénique. Donc pour répondre plus précisément à ta question, l'impression que j'avais, c'était qu'il y avait besoin de remettre ce théâtre à la fois au cœur de la cité et dans un ordre, un vrai ordre de marche. Voilà.
C'est plus qu'un changement de look ou qu'un apport de confort. C'est en même temps repenser complètement la circulation du public dans les différents espaces qui composent le théâtre.
Oui, avec le fait que nous n'ayons pas touché à la structure proprement dite du bâtiment. Donc la circulation, c'est peut-être un grand mot parce que c'est pas si grand et si vaste le théâtre du Merlan. Il y a certes plusieurs espaces puisqu'il y a la salle de spectacle, il y a le studio de danse, il y a aussi la salle de cinéma, plus toutes les petits espaces annexes à tout cela. Ce qui était surtout important, je pense, c'était de contribuer à revaloriser l'image et que forcément le bâtiment a sa part là-dedans. Et puis aussi de dire que souvent c'est le cas dans les travaux, c'est que ce qui est le plus long et souvent le plus coûteux ne se voit pas et que, en effet, le public qui va découvrir le théâtre demain soir ne va pas s'apercevoir que tout ce qui concerne l'électricité, tout ce qui concerne le chauffage et la climatisation qui ne se voit pas ont été entièrement refaits et repensés, en effet.
Et puis tu l'évoquais tout à l'heure, un nouveau plateau qui je crois est extrêmement performant et qui permettra aux compagnies, notamment aux compagnies de danse, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions.
Oui, c'est vrai, ça c'est une chose à laquelle je tenais beaucoup à mon arrivée, c'est que on puisse prévoir que toutes les formes artistiques soient possibles sans contrainte. Donc on va bénéficier en fait de deux plateaux différents, l'un qui devrait permettre d'accueillir des formes très variées et j'ai envie de dire allant dans tous les possibles jusqu'aux formes circassiennes ou même pouvant supporter des gradins assez lourds sur le plateau, puisque ça c'est une chose qui nous apparaît à toute l'équipe très important, c'est de pouvoir garder justement notre esprit de vagabondage dans le théâtre et de pouvoir accueillir toutes les formes et toutes les configurations possibles, que les artistes aient vraiment carte blanche. Donc ça c'est le premier plateau, je dirais, qui doit être suffisamment résistant et bien pensé pour accueillir tout ce qui est possible. Et puis un deuxième plancher, lui, complètement consacré à la danse, qui est donc un plancher fabriqué avec des balles de tennis coupées en deux. Et là, il faut souligner qu'il y a plusieurs, depuis quelques années, plusieurs centres chorégraphiques, par exemple, qui sont équipés de ce plancher et que ça a réduit quasiment à zéro tous les petits accidents du quotidien des danseurs et qu'en effet, c'est un confort très apprécié par les danseurs de pouvoir bénéficier de ce plateau.
Pendant ces deux ans et quelques de travaux, la programmation ne s'est pas interrompue. Cette idée de vagabondage, elle n'est pas si inhabituelle que ça pour un théâtre. De nombreuses scènes font de la programmation hors les murs. Mais elle est quand même assez inusitée pour une scène nationale. Alors Nathalie, quelle était ton idée en lançant ce vagabondage? Est-ce qu'il y avait de ta part une volonté de prise de risque? De goût du risque même peut-être?
Non. Je ne sais pas si le risque, c'est quelque chose qui se décrète. Moi, je ne me revendique pas comme quelqu'un qui prend des risques, puisque ce que je fais, je ne le fais pas en pensant que je vais prendre des risques. Je le fais plutôt par intuition. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. C'est que je suis même incapable de me rappeler comment cette idée est arrivée. Il y a plusieurs facteurs qui concouraient au fait qu'on ne voulait pas, sous prétexte qu'on ne disposait plus du théâtre, d'aller dans les autres théâtres ou même d'implanter un chapiteau. Je pense que l'intuition qui a été la nôtre à l'époque, à toute l'équipe, c'était de sentir que cette fermeture, c'était une formidable occasion de s'ouvrir. Je pense que ça a été ça notre fil directeur. Comment aujourd'hui on peut s'ouvrir sur la ville? Moi, par rapport au théâtre que je dirigeais avant d'arriver à Marseille et par rapport, j'ai envie de dire, à ma personnalité dans la programmation, je ne me vivais pas à l'époque et je ne me vis toujours pas comme, en effet, une directrice de salle qui attend le client. Et j'avais vraiment le pressentiment à l'époque que des formes artistiques pouvaient être présentes dans la cité, dans la ville, dans la vie des gens, en dehors même du théâtre. Et j'avais aussi connaissance que de plus en plus d'artistes avaient eux aussi le souhait de travailler plus en prise peut-être avec le réel et aussi qu'on leur donne l'occasion d'investir d'autres espaces. Et puis aussi, cette crise qui est réelle de la diffusion des œuvres en France, bon, pas qu'en France, mais c'est vrai que c'est quelque chose forcément pour un directeur de théâtre qui lui tient à cœur. Et je pense que cette idée du vagabondage, ça ouvre d'autres possibles pour présenter des spectacles et des œuvres d'art. Bon, la preuve, c'est que ça s'est réalisé. Donc je pense que c'est tous ces facteurs. Plus un dernier qui est venu assez rapidement et qui nous a animés tous dans l'équipe, c'est aussi la réalité de cette ville. On ne peut pas travailler et diriger un théâtre sans prendre en compte, mais le prendre en compte réellement, la sociologie, la géographie, la spécificité de la ville dans laquelle on évolue. Et c'est vrai qu'on avait tous un regard assez neuf, puisqu'on n'était pas d'ici, de Marseille. Et que ce regard qu'on a porté sur la ville, très vite, nous a conduit à vraiment vouloir réunir des quartiers, des espaces. On a vraiment appris appréhendé assez vite le caractère très éclaté, très segmenté de cette ville, ainsi que la sociologie culturelle et sociale des habitants, de la population de cette ville. Et je pense qu'il y avait une envie, en effet, de rassemblement, de réunion, ce qu'on fait aussi dans la programmation. On n'essaye pas d'étiqueter les spectacles, de dire tiens, ça c'est du cirque, ça c'est de la danse. Donc je pense que c'est tout ça qui nous a amené à pousser l'idée du hors les murs un peu plus loin et à inventer cette idée du vagabondage qui est devenu, et c'est ça qu'on veut développer, un état d'esprit au-delà même d'un vagabondage géographique. C'est un vagabondage dans la tête aussi, de ne pas rester fixe, figé, et de pouvoir toujours être en mouvement. Et ça, ça me paraît très important.
En cas de petit creux, et si vous avez le cœur bien accroché, arrêtez-vous au McDonald's de la rue flottante du Merlan et demandez le menu spécial concocté par Rodrigo Garcia. Bon appétit.
Y detrás, en el maletero, llevaba el mataratas. Mejor comer esto que chupar pollas.
Si tu as 9 ans et que tu vis à Bruxelles, Cuba,
vas a chuparle la polla a un turista italiano.
Si tu as 9 ans et que tu vis à Lisbonne, Thaïlande,
y vives en Bolivia, vas a la mina para los gringos.
Si tu as 9 ans et que tu vis à Florence, si tu vis en Afrique.
Un regard sur la sociologie de cette ville et au-delà sur la culture méditerranéenne qui t'a amené sans doute à choisir un certain nombre des thèmes, des thématiques, pourrait-on dire, que tu as abordées au cours de ce vagabondage. Je pense notamment à une thématique autour du corps qui a pris une grande place dans la programmation.
Oui, c'est vrai. Cette thématique, elle vient principalement d'une envie de ne pas rester dans des préoccupations artistico-artistiques. Là encore, c'est l'envie de rassemblement et de réunion, de lutter contre la segmentation des choses. Donc, plutôt que de parler de danse, de théâtre, de cirque, j'avais vraiment envie que ce qui réunisse les spectacles, ou en tout cas ce qui soit une préoccupation commune, soit une préoccupation commune aux artistes et aux gens. Et c'est vrai que le corps, c'est un thème qui concerne absolument tout le monde, puisque tout le monde, à ma connaissance, a un corps. Et que, à partir de là, c'était aussi l'envie de revaloriser la notion du corps. Parce que je trouve que on est à un moment de notre époque, de notre civilisation, où le corps est devenu quasiment quelque chose d'obsolète. Soit on essaye d'en faire quelque chose d'extrêmement performant, soit on considère presque oui qu'il est quasi obsolète. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, cette chose-là. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça nous coupe aussi de nous-mêmes, de nos émotions. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être performant, c'est les efforts qu'on fait pour être debout, pour être au top, pour vendre, oui, pour être performant. Et je pense que la part d'humanité qu'on a en nous et qu'il faut soigner, préserver, voire développer, nous demande vraiment de nous relier à notre corps qui est notre guide en termes d'émotions et de sensations. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que ce thème soit fort dans la programmation.
Mejor comer esto que chupar pollas.
Si tu as 9 ans et que tu vis à Bruxelles, Cuba,
vas a chuparle la polla a un turista italiano.
Si tu as 9 ans et que tu vis à Lisbonne, Thaïlande,
y vives en Bolivia, vas a la mina para los gringos.
Si tu as 9 ans et que tu vis à Florence, si tu vis en Afrique,
y vives en Africa, cosis balones para Nike.
Si tu vis en Bolivie,
si tu as 9 ans et que tu vis à New York,
si tu as 9 ans et que tu vis en Thaïlande,
en Thaïlandia, tienes que dejar que te dé por el culo un australiano.
L'histoire de Ronald, le clown de McDonald's, de Rodrigo Garcia, spectacle en espagnol sous-titré en français, une proposition du Merlan au théâtre Massalia les 3, 4, 5 et 6 mai. Attention, spectacle déconseillé au moins de 16 ans non accompagné.
Alors j'ai bien compris que cette idée de prise de risque ne te convenait pas tout à fait. Pourtant, si l'on observe cette programmation au cours de ces 2 ans et demi, il y a eu quand même un certain nombre de spectacles qui étaient, mettons, gonflés, à la limite de la transgression des codes ou des habitudes, en tout cas de ce qu'on peut attendre d'une scène nationale, encore une fois, hein, d'un théâtre entre guillemets institutionnel. Je pense peut-être particulièrement par exemple à la proposition de Félix Rückert ou bien à celle de Rodrigo Garcia. Donc il fallait quand même un certain souffle, on va dire, pour proposer ça.
Oui, ou celle de Massimo et au stade Vélodrome. En fait, à dire vrai, ça me fait très plaisir quand on me dit que je suis quelqu'un qui prend des risques. C'est juste que c'est pas moi de le dire. Mais une chose, par exemple, à laquelle j'ai été sensible, c'est que à la fin de la saison dernière, on a fait une étude auprès des spectateurs du vagabondage et on leur a demandé en quelques mots-clés comment ils qualifiaient le Merlan. Puis on leur a demandé ce qu'ils attendaient de la réouverture. Et un des mots-clés qui revenait, c'était le risque. Et ce qu'ils attendaient de la réouverture, c'était encore plus de risques. Donc finalement, ça minimise ma prise de risque à moi, puisqu'on me demande de prendre des risques, ça m'encourage à le faire. Et puis très honnêtement, tout ça, faut quand même le relativiser. Hein. C'est du spectacle, ça fait de mal à personne et le risque, il est pas si énorme que ça. Je sais pas si c'est bon. D'abord, c'est les artistes qui prennent les risques en premier. Puis je pense qu'on a tous envie de prendre des risques. On est dans une vie totalement ronron, normée, formatée, normalisée. Alors un petit peu de risque, on en a vraiment besoin.
50 lieux visités au fil des mois. Peut-être quelques mots, Nathalie, sur les espaces parcourus, parfois des lieux de programmation proprement dit, comme la friche ou la criée ou le gymnase, mais aussi parfois des lieux complètement inconnus du public et que tu nous as fait découvrir ou redécouvrir. Est-ce que tu nous referais une petite cartographie sensible et personnelle de ces lieux traversés au cours du vagabondage?
Oui, c'est vrai que j'ai des images, j'ai des souvenirs. Je crois que le premier souvenir, forcément, pour moi, il a été très fort. C'est le début. Vous savez, quand on arrive dans une ville où on connaît personne, où il faut revaloriser l'image d'un théâtre, affirmer l'identité d'une nouvelle programmation. J'avais quand même un petit peu peur. Et c'est vrai que le premier grand souvenir, c'est l'église Saint-Charles. C'est la rencontre avec ce prêtre. Et c'est cette église où on est rentré avec Jean-Marc Diebold, mon assistant, et comme ça, un peu par hasard, on est rentré chacun par une porte de l'église, on s'est retrouvé au centre de l'église et on a vraiment ressenti des ondes fortes. On a pensé à Camille Boitel, on l'a appelé, il est venu. Donc ça, c'est un souvenir assez fort. J'en ai un autre aussi, c'est les mêmes bros quand on les a programmés dans le petit festival qu'on avait fait qui s'appelait Et Hop, et qu'il y avait cette procession des gens qui partaient du théâtre. La Minoterie, pardon, voilà, qui partait du théâtre de la Minoterie pour aller au collège de la Joliette, qui venait juste d'être inauguré. Cette procession des gens sous ciel gris, ça c'est un souvenir assez fort. Bon, Félix Rückert, c'est vrai qu'il y a l'espace, mais moi je n'oublierai jamais ces pupilles dilatées qui arrivaient après avoir fait l'expérience de Félix, et que c'est vrai qu'on était là aussi dans un lieu qui était complètement incroyable et décalé. Et puis aussi le vieux port, l'Union Nautique Marseillaise avec la trilogie de Pagnol. Ça, c'est des moments forts parce que on a senti que pour les gens, c'était aussi une manière de vivre autrement des lieux qui peut leur être familier. Le port autonome aussi, tous ces gens qui sont venus dire « Ah, c'est là que j'ai fumé ma première clope, c'est là que j'ai embrassé une fille pour la première fois. » Bon, c'est important de remettre, comme je le disais tout à l'heure, le théâtre ou l'art dans la vie. Et quand on est dans des lieux qui sont chargés de souvenirs pour les gens, on est au cœur de la vie. Et nous aussi, c'est des souvenirs après, forts.
Au final, on a l'impression même que tu ne gardes que de bons souvenirs. Donc, je ne vais peut-être pas te demander si on avait de mauvais. Je suis sûr que tu vas me répondre qu'au final, non. En tout cas, des lieux, 50 lieux, qui n'ont sûrement pas été choisis par hasard, mais probablement en lien avec les spectacles qui y étaient programmés. Alors, comment est-ce que tu opérais ce lien, cette articulation entre le lieu et le spectacle programmé? C'était le spectacle qui dictait le lieu? C'était le lieu qui faisait penser à un spectacle? Comment ça se passait?
En fait, assez vite, ça a été les deux. C'est-à-dire que notre travail avec Jean-Marc, c'est de voir des spectacles, c'est de rencontrer des artistes qui ont des projets. Donc ça, c'est en nous, c'est dans notre tête. Et puis, comme on était à la rue, l'autre partie de notre travail, c'était de marcher dans Marseille et de découvrir des espaces où on pouvait être. Et puis, d'un coup, pouf, il y avait des liens qui pouvaient se faire. Par exemple, exemple, quand on a visité le lieu où on a accueilli Félix Rückert, on le visitait comme ça, par hasard. Parce qu'on avait été voir Geneviève Saurin, que le propriétaire de cet espace était là. Il nous a dit « Ah, je vais vous montrer ». Puis là, pouf, on a pensé à Félix Rückert. Comme quand on a vu l'église Saint-Charles, on a pensé à Camille Boitel. Donc voilà, c'est comme à un moment donné, on a dans la tête un projet d'artiste, un lieu, puis qu'on a l'impression que l'un et l'autre sont faits pour résonner ensemble.
Le réseau carcéral,
ne rejette pas l'inassimilable.
Il n'a pas de dehors.
Dans un enfer confus,
il n'a pas de dehors.
Il économise tout.
Il s'assoit, tout tend, l'attraper. Yeux et bouche clos, tel se lève et demande, douteux. Une perche, ou plutôt 26 perches, tendues entre le cirque et la danse. Est-ce qu'il faut être perché pour proposer un tel spectacle?
C'est pas plus mal. Parce que, vu d'en haut, le monde paraît plus petit, et donc ça fait moins peur.
Le vagabondage, un mode de programmation qui suppose aussi d'inventer de nouveaux rapports au public. Aujourd'hui, invité à habiter le Merlan, le public a été invité autrefois à parcourir la ville, mais maintenant il est invité à habiter ce nouveau lieu. Je suppose que vous allez développer de nouvelles approches de ce public. Anaïs, peut-être quelques mots sur les modalités qui ont été utilisées au cours de ces 2 ans et demi de vagabondage pour conquérir, je ne sais pas si le terme est adéquat, de nouveaux publics. Et en tout cas pour développer vraiment de nouveaux rapports avec le public.
Après, c'est vrai que c'est aussi la richesse du vagabondage, c'est que ça a permis, en tout cas moi j'y ai pas participé, hein, parce que moi je viens d'arriver dans cette équipe, donc je n'ai connu que sur la fin, mais c'est vrai que c'était une aventure qui a permis de rencontrer des publics qu'on n'aurait pas rencontrés si en tout cas l'équipe était restée dans le lieu. Pour une raison simple, c'est que c'est vrai que quand on s'installe sur un territoire qui est chargé de son histoire propre, d'un coup c'est aussi le lieu où vivent des gens, et que je pense que l'équipe des relations publiques avait toujours tenté de faire ce travail-là, c'est-à-dire à chaque fois de se rapprocher, mais bon, dans des délais toujours très courts. Hein, donc les liens qu'on tisse, ce sont des liens qui sont aussi beaucoup sur l'éphémère et sur une espèce de flash d'une rencontre, d'un moment. Mais ça a permis effectivement de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés si la programmation s'était directement réouverte au Merlan. Donc là, voilà.
Anaïs, tu viens de rejoindre l'équipe depuis assez peu de temps. Mmh. Auparavant, dans cette relation particulière au public, intervenait un artiste, Jean-Pierre Mouler. Peut-être on peut, en quelques mots, Anaïs ou Nathalie, évoquer le travail qu'il a réalisé dans l'équipe. Nathalie.
Oui, la présence de Jean-Pierre, elle a été très importante. D'abord, c'est quelqu'un avec qui je travaillais auparavant et sur un préalable commun qui était qu'on avait un regard un peu critique, mais gentiment critique, sur tout ce qu'on appelle l'action culturelle. Donc nous, on avait 2 rêves avec Jean-Pierre. Le premier, c'était de dire, mais pourquoi faudrait-il sensibiliser les gens? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils n'ont pas de sensibilité, que nous, on en a une? Est-ce que ça voudrait dire que nous, avec les artistes, on est au-dessus, ils sont en dessous, pas forcément dans un rapport très égalitaire? On avait aussi envie de rêver sur des relations durables avec les gens. C'est vrai que les actions de sensibilisation, elles ont toujours cette contrainte. C'est que les gens vivent, par exemple, avec des artistes, des moments extrêmement chouettes, émouvants. Puis une fois que c'est fini, ils se sentent un peu abandonnés. Donc voilà, on avait envie d'installer des relations avec des gens sur la durée, de considérer que d'aller voir des spectacles n'est pas une fin en soi, que de s'émouvoir devant un coucher de soleil ou de savoir regarder, je sais pas moi, un tas de cailloux au pied de chez soi, c'était aussi important que d'aller voir un spectacle. Et que aussi, on pouvait imaginer que la vie artistique, c'est vaste et que les gens peuvent y participer autrement qu'en applaudissant et en étant spectateurs. Donc voilà, fort de ces trois rêves, on a lancé cette idée de spectateurs associés et de permettre à des gens de s'investir dans la vie du théâtre auprès des artistes de plein de manières différentes et qui leur permet finalement de ne plus être des consommateurs ou des spectateurs passifs, mais de jouer un vrai rôle. C'était ça l'idée.
Anaïs, est-ce que c'est une idée que tu vas poursuivre telle quelle ou est-ce que tu vas lui apporter quelques modifications, ta patte personnelle sur ces spectateurs associés ?
Moi, je trouve que c'est un travail remarquable qui a été effectué. Donc, c'est vrai qu'après, c'est de savoir un peu quel lien on peut continuer à tisser. Donc, avec un groupe qui s'est constitué, hein, qui existe encore. L'idée, c'est qu'on a, au jour d'aujourd'hui, c'est éventuellement de convoquer d'autres artistes. C'est-à-dire qu'effectivement, cette parole-là puisse être reprise par d'autres artistes qui fonctionnent aussi un peu dans une approche qui est assez proche de celle que menait Jean-Pierre, que ce soit des plasticiens, que ce soit des gens qui travaillent aussi avec nous sur une exploration sensible et une cartographie sensible du territoire. Je pense que les artistes qui sont là autour de cette table sont aussi là pour en témoigner. Je pense que eux aussi, et c'est là où c'est extrêmement riche, le fait qu'il y ait à la fois des gens, des artistes et une équipe d'un théâtre, c'est que d'un coup, ça nous permet d'aborder le territoire de manière tout à fait différente quand l'entrée que l'on a, c'est aussi une thématique artistique. Là, par exemple, on a organisé une représentation d'un spectacle qui s'appelle Meio Filho, qui est donc une petite forme que de 20 minutes qui a été concoctée par les mêmes brosses que l'on accueille sur le plateau avec Fébré et qui était donc une forme de rue que le Merlan avait déjà programmée dans différentes éditions. Et là, on s'est dit, plutôt que de faire une proposition dans le quartier où ce serait nous, opérateurs culturels, qui encore une fois seraient à l'origine de ça, essayons de travailler avec un groupe d'habitants. On est parti plutôt sur une convocation d'un groupe de jeunes de la DAP, en fin de compte, parce qu'on savait qu'il faut toujours passer aussi par un organisme, que ce soit un centre social ou une structure type éducateur de rue. Et donc depuis 2 mois, on a construit véritablement cette représentation dans le quartier de la Busserine avec ses habitants, avec ces jeunes, ce groupe de jeunes. Et le projet était parti vraiment d'une intuition au départ qui était de dire finalement ils sont beaucoup plus à même de nous livrer les clés de leur territoire que nous. Et ça a remarquablement bien marché. Et il y a une petite phrase qui symbolise assez bien ça, c'est que les jeunes nous disent tiens c'est rigolo, on le pensait pas mais on est passé de l'autre côté de la vitre. Et pour eux qui traversaient en permanence ce centre urbain, se retrouver du côté des bureaux pour travailler à l'accueil d'un spectacle, et ils sont passés non pas de l'autre côté du miroir, mais de l'autre côté de la vitre. Et ça, je trouve que c'est assez fabuleux y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas.
Karikane Alkari, bonjour.
Avec Ousseini Sako, chorégraphe et danseur de la compagnie Salian Sam.
Avec Kitty Noël, danseuse et chorégraphe.
Avec Sidou Bourreau, danseur et chorégraphe.
La rue flottante du Merlan vous mène à Marseille Afrique.
Marseille Afrique sur Radio Grenouille en partenariat avec le Théâtre du Merlan, scène nationale, partie du corps.
C'est la série de 3 questions qui ont trait au corps.
Une partie du corps humain. Un mouvement, un centre du corps.
Des spectateurs fidèles, déjà fidélisés sûrement à la programmation du Merlan, et pas uniquement des spectateurs triés sur le volet dans l'intelligentsia marseillaise, ceux qu'on appelle parfois les cultureux, mais aussi j'imagine des gens maintenant qui vont venir des alentours du théâtre du Merlan, des cités environnantes. Est-ce que vous avez établi des dialogues particuliers avec les associations et les structures qui autour du théâtre peuvent contribuer à relayer votre action auprès de ces publics, Anaïs?
Oui, on a vraiment fait un travail, c'est un travail qui a démarré, hein, qui existait déjà pendant le vagabondage, hein, mais il y avait effectivement un travail assez volontariste de rencontrer un peu tous nos voisins. Parfois, moi, je me dis qu'il y a des vagabondages qui sont aussi forts que d'être sur le vieux port, c'est-à-dire de traverser la rue et de débarquer dans la cité en face de la Busserine. C'est symboliquement aussi très fort d'arriver à y amener aussi un public mixte. C'est aussi quelque chose qui participe à une certaine conception, en tout cas, de nos métiers. Et c'est vrai qu'il y a un public assez de curieux, plutôt amené par les centres sociaux ou par des structures un peu associatives. Mais on essaye, en tout cas, on a mis en place, par exemple, des déjeuners où on propose aux gens qui travaillent, qui sont des acteurs du territoire, de se retrouver ici pour déjeuner un vendredi par mois. Et c'est vraiment des choses qu'on a envie de continuer à tisser en partant un peu de cette idée que déjà, une des premières choses, c'est d'arriver à mettre des gens ensemble. Et souvent, il y a peu de lieux qui fait fédèrent et qui permettent juste de manière conviviale à ce que les gens soient autour d'une table et que beaucoup de projets naissent simplement du fait qu'on a aussi un rôle de facilitateur, surtout dans ces quartiers où il y a peu d'endroits très agréables, ne serait-ce que pour s'arrêter, déjeuner ou boire un café, qu'on peut aussi être un peu parfois ce petit pôle-là qui fait que des projets de ça naîtront des projets.
Un public aujourd'hui très large, élargi en tout cas, un public nombreux qui vient voir les spectacles dans cette programmation. Tant mieux que le public soit nombreux et que les spectacles soient pleins. Mais peut-être quelques mots sur cette idée qui est aujourd'hui cruciale, je pense notamment dans l'esprit des institutions et notamment des ministères, sur le taux de remplissage des spectacles et la valeur des théâtres qui est un peu calculée en fonction de ce taux de remplissage des théâtres. Nathalie, qu'est-ce que tu en penses ?
J'en pense comme j'espère beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans une époque où on n'arrive plus à penser, on calcule, ça on le sait très bien le faire. Donc voilà, est-ce qu'il y a toutes les activités humaines peuvent être appréhendées par le calcul ? Je vous laisse y répondre. Moi c'est clair que ça me paraît difficile. Ça ne concerne pas que nous, la santé, la recherche, etc. Donc voilà, et c'est cet été à Avignon, au festival, j'ai entendu Edgar Morin, et voilà, et cette phrase vient de lui. Ça a été mon professeur quand j'étais une jeune étudiante, donc je suis très sensible à ce qu'il dit. Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée, elle m'accompagne quasiment tous les jours. Il l'a dit ça, il a dit « Notre drame, c'est que le calcul a remplacé la pensée, et le calcul ne peut pas penser l'humain. » Donc voilà, c'est pas pour autant qu'il faut être pessimiste. Moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que j'ai foi en l'humain. Donc voilà, pour l'instant, on ne se sent pas menacé du tout. Et puis, je sais que l'humain et notre avenir auront raison de tout ça, parce qu'on va dans le mur.
Alors, vous êtes ici à Radio Grenoble pour un petit jeu dans le cadre du festival Marseille Afrique orchestré par le Théâtre du Merlan qui se déroule actuellement à la Friche Belle de Mai.
Camille Boitel, habitant de la rue flottante du Merlan.
C'est le sol qui est fragile sous moi.
On l'a évoqué tout à l'heure, au début de cette discussion, parmi les lieux qui ont été visités au cours de ce vagabondage à l'église Saint-Charles, chacun en garde un très vif souvenir. C'était, le deuxième spectacle de cette programmation, L'Homme de Huss, une proposition de Camille Boitel et la compagnie La Mère Boitel. Depuis ce spectacle, je crois que tu continues à tourner, Camille. Tu t'es engagée ici au Merlan dans une résidence de création, une résidence au long cours. Est-ce que peut-être sans révéler complètement ce qui va en sortir, tu peux nous en dire quelques mots aujourd'hui ?
Non, mais c'est pas une question de révélation. C'est vrai, on a, ça fait longtemps qu'on passe ici et on est venu comme ça se retrouver. On s'est retrouvé. On a construit une vraie collaboration, je trouve, avec l'équipe ici. On connaît bien tout le monde et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a traversé les bureaux et on a rencontré les alentours aussi. Nous, on est un peu vagabonds aussi. On s'est un peu influencé. Et ça, c'était intéressant de voir qu'il y avait là, il n'y a pas longtemps, on a vagabondé pendant quelques jours en collecte d'objets. Donc, on est allé dans différents endroits. D'ailleurs, sur quelques lieux de vagabondage du Merlan. Collecter des objets, les ramener, les traîner, et puis ensuite les reconstruire, les rebricoler. Et donc ça va faire partie du spectacle aussi. Il y a une collaboration qui s'est construite après sur le spectacle qu'on va faire là. Donc on est plusieurs là à travailler, on travaille un peu Ça fait longtemps qu'on prépare ça, donc c'est une chose très importante pour nous. Et puis on s'était dit, mais aussi avec l'équipe, qu'on avait envie l'offrir aux gens. Moi, ce qui m'importait, c'était que ça soit le plus direct possible. Donc on a aussi essayé d'inviter l'équipe à construire cette collaboration avec nous, à construire ce moment-là. Donc on travaille à ça en ce moment.
En tout cas, pour avoir suivi au fil de ces deux ans quelques-unes des étapes de cette création, de cette résidence, je peux témoigner en tout cas de l'incroyable degré de complicité qui pouvait exister entre ces artistes et ceux qui les accueillaient. Une véritable création ensemble. Camille, à l'origine, tu viens d'une pratique circassienne. Peut-être un mot sur les croisements de styles, de sortes, de genres, de formes qui font qu'aujourd'hui le théâtre et la danse s'hybrident très volontiers avec des formes nouvelles de création beaucoup moins académiques qu'autrefois et qui sont en général plutôt bien accueillies dans leur non-académisme justement ici au Merlan. C'est à ton avis un passage, une mode ou bien c'est un signe des temps?
Bah, je sais pas trop en parler. Ce que j'ai l'impression, c'est que les catégories et les styles sont presque un peu subsidiaires, c'est-à-dire qu'on en a pas besoin avant. J'ai l'impression que c'est presque une sorte de classement, c'est presque le classeur, mais finalement les choses elles-mêmes dans leur brutalité, les œuvres, elles ont pas forcément besoin de s'identifier ou de se catégoriser. Donc moi j'ai pas l'impression de mixer, mais c'est plus en fait quand on est gourmand et curieux. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément besoin de dire qu'on va faire ça et de le faire, mais plus de s'aventurer, de se lancer, quoi, de se jeter, de se risquer pour le coup.
Et toi, Camille, qui est presque un vagabond aussi, en tout cas qui voyage beaucoup dans ta pratique, est-ce que ça t'a pas donné un petit peu envie? Peut-être pas de te sédentariser, n'allons pas jusqu'à là, mais peut-être de poser un pied à Marseille et pas très loin du Merlan. Presque.
Ben, c'est vrai que je vais peut-être m'installer un petit temps à Marseille, mais voilà, c'est peut-être un peu à cause de ça, c'est vrai.
C'est à cause d'eux, hein, c'est à cause de vous, voilà. Nathalie, peut-être quelques mots justement sur cette relation d'accueil des artistes en résidence. Avec Camille Boitel, on en a un bel exemple d'un accompagnement vraiment en profondeur d'une création. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont envisagés dans ce registre et peut-être développer plus encore cet accueil d'artistes, presque une relation de coproducteur?
Oui, alors c'est deux choses différentes, puisque par exemple, dans les spectacles qu'on accueille sur toute cette saison, il y en a 80% qui sont coproduits par le Merlan. Donc on peut coproduire des spectacles. Ça, c'est une chose qui me paraît essentielle par les temps qui courent, puisque en effet, il y a une prise de risque en amont. Pour que les spectacles se fassent, encore faut-il que des gens leur permettent de démarrer. Après, la question de l'accompagnement et de la résidence, c'est encore autre chose. Pour Camille, j'ai envie de dire que c'est de la relation, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui devient naturel. Moi, j'avais le projet à mon arrivée, normalement, de venir avec, dans mes bagages, Joël Pomera, qui devait faire un travail vraiment ici, sur ce territoire des quartiers nord. En fait, ça s'est pas fait parce que le théâtre a fermé. Donc voilà, par exemple, ça, c'est un artiste avec lequel on a un projet de travailler aussi. Alors, en profondeur, je sais pas, mais en tout cas, dans une confiance et une complicité totale. Moi, ce qui m'importe, c'est tous les endroits où les artistes peuvent intervenir et être présents. Parce que c'est pas dans nos habitudes professionnelles. Par exemple, Camille, quand il est arrivé pour faire l'homme de Husse, il a conçu et participé à la communication. Il y a eu une communication qui n'a rien à voir avec la communication traditionnelle qu'on apprend dans les écoles de communication. Camille, il a été mettre des images sans texte dans des endroits précis de la ville, dans les creux, dans les plis de la ville. Donc voilà, pour moi, c'est ça, une collaboration en profondeur, comme tu dis. C'est tous les endroits où l'artiste peut être et intervenir. Si le hall d'accueil, l'artiste nous dit, bah voilà, moi je veux qu'il soit comme ça, et ben il le sera. C'est vraiment de pouvoir leur donner la liberté. Ça paraît évident, mais c'est pas rien. La confiance, ils l'ont. Et aussi la possibilité d'être présent partout où souvent on ne leur accorde pas cette présence. L'artiste, il est trop confiné à arriver, être sur le plateau, repartir, alors qu'il y a plein d'endroits encore où il peut s'impliquer et être véritablement présent.
On a tout perdu.
Karton ist ein äußerst vielseitig und kreativ verwendbares Material, das für die verschiedensten Verwendungszwecke von großem Nutzen sein kann. Mit Fahrrad oder Tram, von Geschäft zu Geschäft und nehmen Sie mit, was Sie tragen können. Dann suchen Sie sich einen Platz, wo es Ihnen gefällt und schon kann es losgehen.
Casa Pas, Manifestation urbaine et gratuite du 30 mai au 2 juin, proposée par Le Merlan et Lieu Public.
Etwas Witziges!
Les Ongles, qui sont ce soir et sur ce plateau représentés par Nicolas Galeazzi, ont été programmés l'an dernier avec plusieurs performances, si mon souvenir est bon, dans l'espace public, c'était en ville. Et Nicolas, tu reviens avec Béatrice Fleischlin pour participer aux festivités qui entourent cette fin des travaux au Merlan. Ton travail incorpore une réflexion sur la notion d'habiter, sur la précarité aussi. Peut-être, comment est-ce que tu perçois, toi, cette idée d'habiter un théâtre ? Comment est-ce que ça résonne pour toi ?
On a fait notre projet et on a trouvé le mot de nomadisme et pas de vagabondage. Et peut-être c'est une petite différence pour notre projet, parce que ce projet est pour chercher les lieux, pour chercher les commencer avec trouver un lieu pour soi-même, pour trouver un, et comment ça se fait, et quelle sorte de projection je fais dans ce lieu que je prends, que je squatte. Et cette terme de nomadisme, c'est vraiment un terme pour dire non, c'est pas possible de trouver un lieu fixe pour toujours, pour aujourd'hui, peut-être c'était jamais, c'est toujours, notre vie est fait par différents éléments, fait par différentes identités et construit par différentes choses qui sont autour de nous, et il faut les tester, il faut aller dans les différentes possibilités. Et c'est pour ça, je crois que ici maintenant dans le théâtre, c'est un truc, moi je trouve que c'est une parole pour ça, que eux ils nous ont invités pour faire ce projet ici. Maintenant, c'est une parole pour dire non, c'est pas un théâtre qui est fixe, c'est pas un, on ne s'établit pas ici. Les portes sont ouvertes, c'est maintenant un stade, c'est maintenant un lieu où on peut exercer notre praxis, de faire de l'art, de faire du théâtre. Et c'est un lieu. C'est une possibilité maintenant d'être ici. Et après cette vagabondage, je trouve ça très clair de faire ça.
Nomadisme ou vagabondage, en tout cas un déplacement dans l'espace de la ville, un déplacement qui occasionne un regard différent sur ceux qui l'habitent et un regard sûrement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus bienveillant, et un regard notamment sur ceux qui dans la ville sont des exclus. Ce regard social, il est présent dans ton travail, Nicolas ?
Oui, il est très présent dans mon vie, qui est mon travail, qui est mon art, en effet. C'est peut-être comme vous, je ne sais pas. Hein. On est toujours dans les non-espaces. On est toujours là, on est toujours en route. Et ça fait part. Alors la recherche de l'identité qui n'est jamais un truc fixe, ça c'est très part de mon travail, bien sûr. Ouais.
En tout cas, clairement, quand on voit réaliser par exemple un petit village en carton qui est destiné à faire expérimenter aux spectateurs cette relation à la fois de la précarité et en même temps de cette capacité de s'installer dans la ville, dans les interstices de la ville, on voit bien qu'il y a là un regard qui est presque, même je dirais au-delà de social, qui est presque politique.
Ouais, oui, mais oui, bien sûr. C'est politique, c'est personnel, tous les deux aux mêmes choses. C'est la même chose, en effet. Alors, la proposition pour les spectateurs, c'est pour nous une recherche. On propose de faire avec nous une ville de carton pendant plusieurs jours, et à la fin des jours, on écrase tout les choses créatives que les spectateurs ont fait, avec des choix, avec tous les spectateurs qui ont fait les trucs, parce que c'est une parole de refaire les choses. Alors c'est un truc, c'est une proposition de penser sur notre vie qui est dans un flou, qui est un processus. C'est une proposition de projeter des visions et une recherche, comment faire ça, parce que la vie c'est compliqué, je trouve, c'est vraiment compliqué. Et si on regarde une ville comme Marseille, moi je trouve qu'il y a tellement beaucoup de concepts, tellement beaucoup de contextes qui sont là-dedans, dans la ville, et c'est très intéressant comme la ville s'organise. Et de voir ça, de voir à travers ou entre les différents contextes, de voir ça et de faire une négociation entre les contextes, ça c'est le laboratoire de Engel, en effet, et une proposition de le faire avec les spectateurs ensemble.
Nicolas, peut-être quelques mots pour décrire la proposition que tu vas faire là pour ces jours prochains, dans le cadre des festivités de la réouverture du Merlan. Une proposition intitulée Schutz und Rettung. Qu'est-ce que ça signifie?
Schutz und Rettung, c'est en effet le deuxième partie de notre compagnie, la deuxième partie du nom de notre compagnie. C'est notre compagnie, c'est pas Engel, en effet. C'est le projet qui s'appelle Engel, joli chez soi pour tous. Et notre compagnie, c'est Fleischlin Galeazzi, alors Béatrice Fleischlin et Nicolas Galeazzi, et Schutz und Rettung. Et Schutz und Rettung, c'est en allemand, ça veut dire à peu près quelque chose comme sécurité et sauver. Quelque chose comme ça. C'est assez bizarre. C'est...
Effectivement, oui.
Oui, c'est effectivement. Et c'est un truc, peut-être, oui, on a choisi ça pour le moment, comme nom, pour to relabel, de faire une nouvelle étiquette à ce mot d'une partie de l'art. Alors, de dire, c'est quoi, est-ce que de l'art, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut proposer à un vie politique qui fait beaucoup des opérations avec ces termes, la sécurité et de la sauvetage. Et qu'est-ce qu'on peut faire là comme autre monde ou comme autre concept contre cette très très stricte politique qui devient maintenant partout. Hein. C'est pas seulement Sarkozy ici, c'est en Allemagne, c'est la même chose, et en Amérique, ils ont été les premiers. Maintenant, j'habite à Angleterre et là, c'est horrible. Avec la même chose, tu vois. C'est ça.
Hélas, oui, c'est quelque chose qui a tendance à s'universaliser maintenant, ce sentiment sécuritaire, dangereusement sécuritaire.
Ouais, c'est un trou, hein. C'est pas une île. Moi, je trouve que c'est un trou, la Suisse, un trou noir, parce que c'est tellement fermé.
Il y a eu des élections récemment, c'est ça, qui était dangereuse.
Oui, c'est dangereuse. Il y a tellement beaucoup de angst, il y a tellement
d'anxiété, d'angoisse.
De angoisse, des choses étranges, de perdre son identité. Et c'est à cause de ça c'est qu'on veut vraiment faire une recherche sur ce mot.
Alors, c'est une bonne idée de venir habiter au Merlan, parce qu'ici, je pense que les principes qui guident l'action et la vie des gens qui sont dans ce lieu sont un peu différents et sûrement beaucoup plus ouverts. En tout cas, la programmation, elle, est très ouverte, puisque outre la compagnie Engel, au cours de ces festivités de réouverture du Merlan, on pourra aussi découvrir des spectacles de Michel Andemay, de la compagnie Mambros, qu'on a évoqué tout à l'heure. On pourra goûter au miel béton proposé par Olivier Darnay. On pourra passer la nuit ici au Merlan, on pourra visiter les lieux avec l'architecte Nicolas Mémin. On pourra participer à des ateliers avec Hélène Dattler, qui est aussi architecte, mais scénographe. Voilà, et poursuivre ensuite un éloge du poil avec Jeanne Mordauge. Ce sera du 5 au 8 décembre. Pierre Meunier, qui viendra avec Les Égarés, du 11 au 13 décembre. Et tout finit, comme chez les Gaulois, par un banquet avec Jeanne Mordauge. La soirée de clôture de ces festivités, je crois que c'est le 15 décembre. En conclusion, un vagabondage qui se termine plus ou moins, je pense quand même qu'en tout cas, beaucoup de choses nous laissent à penser que ça n'a pas un terme avec aujourd'hui ce retour au bercail, mais que sûrement quelque chose restera de nomadisme ou de vagabond dans la pensée et dans l'action de ce théâtre du Merlan, scène nationale à Marseille. La Grenouille vous souhaite bienvenue ici, au Merlan, bienvenue chez vous, autrement dit, et restera en tout cas très attentive aux élucubrations proposées par ce théâtre. En attendant, toute la programmation est sur le site du Merlan, www.merlan.org. Et vous pouvez aussi les appeler, ça leur fera plaisir, 04 91 11 19 20. Édouard était à la technique pour cette émission enregistrée au Merlan. Merci à tous.
On a gagné du carton.
On va faire une carte.
On va à la maison. C'est où la maison ?